Bonsoir à tous, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ces chants, oui c'est vrai qu'ils préparent notre cœur encore à pouvoir écouter la parole du Seigneur. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur justement dans l'évangile de Marc. Nous allons lire au chapitre 10 à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Voilà une excellente question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je crois que c'est une question que tout homme un jour se pose ou se posera. Et la parole de Dieu nous le dit dans Ecclésias, il nous est dit ceci au chapitre 3 et au verset 11. Il fait toutes choses en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Mais nous voyons que dans le cœur de l'homme, Dieu a placé la pensée de l'éternité. Et cet homme-là avait justement cette question, comment hériter la vie éternelle? Et je crois que nous allons prendre le temps ce soir de vraiment regarder de comment cet homme est arrivé devant Jésus et comment cet homme s'est présenté. Et la première chose que nous voyons, c'est l'attitude que cet homme a eue. Il s'est présenté devant Jésus, mais il ne s'est pas présenté n'importe comment. Il nous est dit qu'il s'est prosterné, qu'il s'est mis à genoux devant Jésus. Et je crois que déjà, la première chose à comprendre et qui est vraiment importante, c'est qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On ne s'approche pas de Dieu d'une façon légère. Et cet homme avait compris cela. Il s'est approché avec une attitude de révérence, avec un respect. Et cette attitude-là ne doit pas se faire uniquement physiquement. Nous voyons que cet homme a manifesté cela en se mettant à genoux devant Jésus. Mais je crois que quand nous approchons de Dieu, il faut avoir cette attitude dans le cœur, de ne pas s'approcher n'importe comment. Je ne vous connais pas tous personnellement ce soir, mais on ne peut pas justifier à cause de nos blessures, de nos peines, de ce qui nous pèse, de nos incompréhensions, cela ne peut pas justifier de s'approcher de Dieu n'importe comment. Et vraiment ce soir, la première des choses que je voulais vraiment vous laisser, c'est de vous encourager à ne pas mépriser Dieu par vos paroles ou par vos attitudes dans votre cœur. Des fois, on a des paroles, on dit « mais pourquoi cela arrive-t-il » et on est un peu revendicateur, dans nos pensées, pas forcément en paroles, mais au fond de nous, il y a cela et cela déplaît à Dieu. Et ensuite, il y a cette deuxième attitude que cet homme a, c'est que quand il se présente devant Jésus, il nous est dit qu'il l'a appelé « maître ». Et je crois que déjà ce mot-là est important parce que le maître est celui qui a l'autorité pour agir. Quand on appelle quelqu'un maître, on lui déclare une autorité. On ne parle pas comme ça à n'importe qui qu'on croise dans la rue, mais le fait que cet homme s'approche de Jésus en lui disant « maître », cela montre déjà qu'il a compris que Jésus avait pouvoir d'agir. Jésus avait le pouvoir d'agir dans sa vie. Jésus avait le pouvoir d'agir dans votre vie. Et je crois que quand on s'approche de Jésus, quand on s'approche de Dieu, il faut croire cela dans son cœur. Il faut croire qu'en s'approchant de Jésus, Jésus peut agir. Jésus peut intervenir dans la situation dans laquelle on est. Jésus peut vraiment agir. Oui, Jésus, il est tout puissant. Et comme notre frère nous l'a dit pour présenter ce dernier chant, Dieu peut dire une parole dans votre vie, mais il faut croire cela. Et il faut croire qu'en disant une parole, Dieu peut vraiment agir. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, du verset 8 au verset 9, il est dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et voilà encore un encouragement. Je vous encourage vraiment à, quand on s'approche de Dieu, à ne pas s'approcher de Dieu en se confiant en nous-mêmes, en disant, mais voilà, tu vois, Seigneur, ce que j'ai fait, ce que j'ai, tu vois, que je me suis toujours tenu devant toi, alors Seigneur, agis. Non, n'oublions pas que tout ce que nous avons, tout ce que le Seigneur nous a donné, tout ce que nous pouvons demander à Dieu, tout ça n'est que grâce. Et le Seigneur nous fait grâce. Oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La gloire doit être donnée à Dieu. Et même, il faut faire attention de ne pas se confier même dans nos prières. Des fois, on peut dire, ben voilà, j'ai fait telle prière ou je passe tant de temps en prière. Et puisque j'ai passé tant de temps en prière ou parce que voilà, je m'applique à prier, comme si, voilà, parce qu'on fait telle prière ou parce qu'on passe tant de temps de prière, Dieu est obligé d'agir. Non, n'oublions pas que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et je crois qu'il est important de rappeler aussi l'œuvre de Jésus. Car oui, il nous a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et l'œuvre de Jésus, c'est sa mort à la croix. Oui, il nous a dit dans Jean 3,16, ce verset, nous le connaissons bien, mais nous aimons le citer parce qu'il a vraiment une profondeur réelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus est venu sur la terre, il s'est incarné en un homme afin de venir mourir sur la croix. On pourrait se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi avait-il besoin de mourir ? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que sur la terre, il y a le péché qui règne. Et le péché a mis une séparation entre Dieu et les hommes. Et comme c'est marqué sur ce mur, dans la parole de Dieu, il nous est encouragé à être réconciliés avec Dieu. Et le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, c'est que quelqu'un paye pour ce péché. Parce que dans la parole de Dieu, dans le monde spirituel, il y a des lois, comme dans le monde physique, il y a des lois. De même, dans le monde spirituel, il y a des lois, et une de ces lois est que le salaire du péché, c'est la mort. Il nous dit cela dans l'Épître aux Romains. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un devait payer ce prix-là. Et Jésus seul a pu payer ce prix-là. Jésus est venu, il a choisi de quitter son ciel de gloire, il est descendu sur cette terre ici-bas, et il nous a, par son sacrifice, donné l'occasion d'être réconciliés avec Dieu. Le péché nous avait mis une séparation et Dieu est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Oui. Et il nous a dit, pour reprendre le texte que nous avons lu, que cet homme-là avait observé tous les commandements que Dieu avait mis dans la loi depuis sa jeunesse. Il nous a dit qu'il répondit à cela, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Oui. Cet homme-là a observé toutes ces choses depuis sa jeunesse. Cet homme-là avait choisi de suivre ce qui était agréable à Dieu, de suivre ses commandements, ses préceptes. Et pourtant, il nous est dit que Jésus va lui dire qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Et je crois que c'est important de comprendre que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu fait une remarque dans notre vie, ce n'est pas anodin. Jésus nous aime, nous l'avons vu. Jésus nous aime, et il est encore rappelé cela dans l'Épître aux Romains, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Oui, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Et son amour nous pousse, à nous révéler la vérité. Parce que des fois, on pourrait croire qu'en ne disant pas cela ou en disant cela, on pourrait faire du tort à quelqu'un. mais la vérité que Dieu dit est toujours bonne pour nous. Et Jésus avait besoin de dire cette vérité-là à cet homme-là, qu'il lui manquait quelque chose, que sa relation avec les commandements de Dieu n'était pas suffisante, il lui manquait quelque chose. Et Jésus a mis le doigt sur ce qu'il manquait à cet homme. Oui, rappelons-nous que sa question était « Comment hériter la vie éternelle ?» Et il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose parce que nous voyons que, il lui manquait quelque chose et Jésus va lui dire « C'est bien, tu as fait tout cela, c'est bien. Maintenant, il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. » Vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Alors, il ne faut pas croire que Jésus est contre les richesses, c'est pas cela qui nous est dit. Mais avant de vraiment rentrer dans le détail de la réponse de Jésus, j'aimerais quand même voir l'attitude de cet homme. Il nous est dit, il fut affligé de cette parole et il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il fut affligé de cette parole. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Il vient se présenter devant Dieu, devant Jésus, pour lui dire comment hériter la vie éternelle. La question est excellente. Et pourtant, quand Jésus dit, écoute, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Vends tout ce que tu as et tu pourras acquérir la vie éternelle. Non pas parce que tu auras vendu tout, mais parce que tu auras obéi à ma parole. Viens et suis-moi, le Seigneur Jésus lui a dit. Et il fut affligé. J'ai regardé la définition du mot affligé pour vraiment insister sur ce mot-là veut dire une personne qui est profondément attristée par un malheur. C'est grave quand même la réaction de cet homme-là. Il fut profondément attristé de cette parole. Le mot affligé, on pourrait le remplacer par cela. Il fut profondément attristé par cette parole. Il fut profondément attristé par cette parole. Jésus a dit un peu plus loin, nous ne l'avons pas lu, mais pour expliquer la réaction un peu de cet homme-là, Jésus va dire au verset 24, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà un peu la clé pour cet homme-là. Comme je l'ai dit, Jésus n'avait rien contre Jésus n'a rien contre la richesse, contre les hommes riches. Mais le problème qu'il se passe, c'est que cet homme-là avait placé son cœur dans la richesse. Cet homme-là avait la richesse était quelque chose de plus important pour lui, ses biens étaient quelque chose de plus important pour lui que la vie éternelle. Puisque on voit que Dieu met le doigt sur ce que cet homme-là lui manquait, l'obstacle qu'il avait dans son cœur pour vraiment hériter la vie éternelle. Il nous est dit dans Matthieu au chapitre 6 au verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et dans l'épître aux Timothée, il est dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Nous voyons là cet homme, oui. Cet homme lui fait comprendre que son cœur n'était pas attaché à Dieu. Cet homme-là était capable d'observer des commandements. Cet homme-là était capable de rester dans une vie de sainteté, de faire ça pour honorer Dieu, faire ça pour honorer Dieu. Mais son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Son cœur n'était pas entier pour Dieu. Et c'est ce qu'encore le Seigneur veut nous rappeler ce soir. C'est qu'avec le Seigneur, nous ne pouvons pas marcher avec un cœur partagé. Nous ne pouvons pas observer ses commandements pour observer ses commandements. Mais Dieu veut établir une relation. Dieu veut vraiment établir un lien avec nous. Et il veut pouvoir avoir son cœur, notre cœur, tout entier pour lui. Pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse nous guider et nous diriger. Oui, cela est important de comprendre cela. Un cœur entier pour Jésus. Un cœur entier pour Jésus. J'aimerais lire encore un passage avec vous dans l'évangile de Marc, juste un peu avant, au chapitre 8, au verset 22, du verset 22 au verset 26. C'est une autre histoire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire-là, mais j'ai vraiment eu à cœur de le prendre avec vous. Au chapitre 8, au verset 22, il est dit ceci. Ils, c'est Jésus et les disciples, se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village, ne le dis à personne du village. » Amen. Je voulais vraiment lire cette histoire avec vous, car je l'ai vraiment eu à cœur, parce que nous voyons là une situation un peu particulière. Comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette histoire, de cette guérison, parce qu'on pourrait tout refaire encore une prédication derrière. Mais ce qui m'a marqué, c'est que Jésus a pris l'aveugle et l'a conduit hors du village. Jésus a pris cet homme-là, qui était aveugle, et l'a amené hors du village. Et tout comme cet homme, dans la parabole, dans l'histoire que nous avons lue juste avant, tout comme cet homme s'est présenté devant Dieu, tout en observant les lois et les commandements de Dieu, en essayant de vivre une vie sainte, n'avait pas un cœur entier pour Dieu. Je crois que ce soir, pour l'un d'entre nous, c'est cela aussi qu'il faut comprendre. Et Jésus veut te dire cela, c'est qu'il a besoin de te prendre et de te sortir de cette situation dans laquelle tu t'es mis pour pouvoir parler à ton cœur. Il y a une situation dans ta vie qui t'empêche d'être entièrement à Dieu. Il y a une situation dans ta vie qui t'empêche de laisser Dieu complètement diriger ta vie. Et Jésus, ce soir, veut te prendre par la main, comme cet aveugle, te prendre par la main et te conduire hors, à l'écart, pour pouvoir parler à ton cœur. Il a besoin de te prendre à l'écart pour pouvoir guérir ta cécité spirituelle. Parce que dans la parole de Dieu, souvent, le péché est référencé avec et comparé avec cette image de la cécité. Et le péché rend aveugle, la parole de Dieu nous le dit. Et dans ton cœur, tu as cautionné certaines choses. Tu as cautionné certaines choses qui t'empêchent d'être entièrement à Dieu. Alors ce n'est peut-être pas un péché à proprement parler. Dans un premier regard, ce n'est pas forcément du vol ou un meurtre ou quelque chose, un péché qu'on pourrait dire grossier. Mais le péché n'est pas forcément cela. Il peut être aussi simplement ce qui t'empêche de laisser Dieu agir, ce qui met une séparation entre toi et Dieu. Alors peut-être que tu ne veux pas laisser ta famille, peut-être que ta famille, tes amis sont quelque chose d'important pour toi et tu ne veux pas délaisser cela. Ta famille est plus importante pour toi que Dieu. Peut-être ce sont tes amis, peut-être c'est tes études, tes projets professionnels, peut-être c'est ta vie sentimentale. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur a besoin de te dire arrête ce soir. Laisse-moi te prendre à l'écart. Laisse-moi parler à ton cœur. Laisse-moi te montrer que ce que tu as dans ton cœur, ce que tu n'as pas voulu complètement me délaisser, pour que je puisse le diriger, cela t'empêchera. Cela, si tu continues dans cette situation, t'empêchera d'hériter la vie éternelle. Et comme cet homme-là est reparti tout triste, comme cet homme-là est reparti sans avoir obtenu ce qu'il était venu chercher, ce soir ne sois pas comme cela. Bien s'approcher de Dieu, avec cette révérence qu'il y a, avec ce respect qu'il se doit, en croyant que Dieu va agir, c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Il faut laisser notre cœur entier pour Dieu. Oui, soyons tout entiers pour le Seigneur, nos yeux fixés sur la croix, afin de le connaître. Car le connaître, c'est ça la vie éternelle. Le connaître, c'est ça la vie éternelle. Amen.